I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民南家
都忙了。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, cette émission que vous retrouvez sur France Culture tous les jours, entre 11h et 11h50. Vous y retrouverez, comme chaque jour, la chronique d'Alexis Patovsev, ce sera tout à l'heure vers le mi-temps de l'émission. On entame une nouvelle semaine et donc une nouvelle série autour des armes cette semaine, dans les armureries du monde. Demain, nous parlerons de la question de la circulation des armes dans les situations post-conflit. Mercredi, nous parlerons des drones et puis jeudi, nous finirons avec les armes du futur. Mais aujourd'hui, donc, pour commencer, la question du contrôle des armes dans le monde, d'Austin à Rio, chacun son arme.
Good afternoon to all of you. I'm Diane Sawyer here at ABC News headquarters in New York, and we do have the breaking news of a shooting at an elementary school in Newtown, Connecticut.
Tell them.
Je me suis mise à la place de leurs parents, dit-elle. Je leur ai dit que je les aimais très fort et que tout allait bien se passer, car je pensais que ce seraient les derniers mots qu'ils allaient entendre. On a du mal à croire que quelque chose de la sorte puisse se produire ici, car c'est une ville tranquille. C'est horrible qu'il existe de tels monstres aux États-Unis, en particulier ici, mais c'est la nature de la vie, je suppose.
As a country, we have been through this too many times. Whether it's an elementary school in Newton or a shopping mall in Oregon or a temple in Wisconsin. Or a movie theater in Aurora, or a street corner in Chicago.
Oui, c'était il y a quelques semaines, donc la tuerie de Newton, durant laquelle un jeune homme presque autiste, dira son frère, a battu 26 personnes, dont 20 enfants, dans une école du Connecticut. Un événement qui a suscité évidemment une émotion terrible dans tout le pays et même au-delà. Barack Obama, qu'on entend là, n'avait pu retenir ses larmes lors de la conférence de presse qui avait suivi. Et même s'il avait dit que cette fois devait être différente, qu'il mettrait tout le pouvoir de sa fonction au service de cette cause, on sait que ce défi est immense, peut-être même insurmontable. L'administration américaine pourra-t-elle renforcer le contrôle des armes dans le pays pour éviter de telles tragédies? En tout cas, Obama et même le vice-président Joe Biden l'ont laissé entendre. C'est le sens du plan présenté le 16 janvier dernier, contenant 23 décrets. Si l'affaire semble peut-être mal engagé, en tout cas difficile, délicate, c'est que le droit de porter une arme fait d'une certaine manière partie de la culture américaine et figure d'ailleurs parmi les droits reconnus dans la Constitution. C'est ce fameux second amendement. De plus, le droit à l'autodéfense, à la protection par les armes à feu est défendu bec et ongle par l'un des lobbies les plus puissants des États-Unis, peut-être même le plus puissant, la NRA, National Rifle Association. Alors on voit, cette problématique du contrôle des armes à feu ne peut être comprise sans une interrogation plus profonde sur la culture, sur la mentalité américaine, où le fait de porter une arme est d'une certaine manière associé à la citoyenneté. Qu'en est-il dans les autres pays du monde concernés par cette violence? Au Brésil par exemple, on en parlera, il y a une grande loi de désarmement qui a été votée en 2003 avec des résultats assez mitigés. On en parlera tout à l'heure avec Ruben César Fernandez qui sera avec nous depuis Rio. Et puis on ira aussi du côté de l'Afrique du Sud où le taux d'homicide par arme à feu est aussi extrêmement élevé. En tout cas assez comparable avec le Brésil. Les choses semblent là aussi peut-être évoluer, mais lentement. La circulation des armes, très importante après la fin de l'apartheid, semble diminuer d'année en année. Quelles sont les modalités de contrôle des armes dans ces pays, et en particulier aux États-Unis? Voilà la grande question qu'on va se poser ce matin avec Didier Combeau. Bonjour Didier Combeau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes un spécialiste des États-Unis, vous avez enseigné la civilisation américaine à Paris 3 et vous êtes l'auteur de ce livre « Des Américains et des armes à feu », sous-titré « Démocratie et violence aux États-Unis », qui était paru chez Belin en 2007. Merci d'être avec nous ce matin. La première chose, Didier Combeau, que j'ai envie de vous, la première question que j'ai envie de vous poser, on l'entendait, ce petit montage autour de cette tuerie qui a eu lieu il y a quelques semaines. Est-ce que ce genre de tuerie, ça change radicalement l'état de l'opinion aux États-Unis quant à cette question de la détention du port d'armes à feu, Didier Combeau?
Alors, cette tuerie de Newton a bien sûr causé une émotion très importante dans le pays parce que elle concernait des enfants très jeunes, tout d'abord, et un grand nombre d'enfants très jeunes. Et puis, il y a le moment où elle est survenue également, très peu de temps avant Noël, donc à une époque où justement les enfants occupent le centre de la vie familiale. Et donc, on comprend qu'il y a eu une réaction émotionnelle très forte. Cependant, c'est loin d'être la première fusillade, c'est loin d'être le premier massacre. Et il me semble que les lignes évoluent tout de même assez peu. On a une majorité d'Américains qui sont pour un resserrement de la législation, mais on a toujours une minorité qui serait pour l'interdiction des armes à feu. Et donc la question est de savoir quelle peut être la nature des mesures législatives.
Alors justement, quand vous dites resserrement, ça veut dire quoi concrètement? Quels sont les outils, les leviers sur lesquels Barack Obama va pouvoir actionner?
Alors, les outils et les leviers, vous l'avez dit dans votre introduction, sont évidemment limités par la Constitution américaine, hein, par le second amendement à la Constitution. Il faut savoir, lorsqu'on parle de réglementation des armes à feu, lorsqu'on pense à cette question en France, on a tendance à réfléchir en termes d'interdiction ou d'autorisation. C'est en réalité beaucoup plus complexe que ça, parce qu'on peut réglementer la vente, l'achat, la possession, le port, et ces limitations, elles peuvent s'appliquer à certaines catégories d'armes, ou à toutes les armes, ou elles peuvent s'appliquer à certaines catégories de la population, ou à toute la population. Donc la législation sur les armes est quelque chose d'extrêmement complexe. Et si les Américains sont majoritairement pour une réglementation, là où on voit des avis divergents arriver, c'est lorsque l'on parle de quelle sorte de réglementation. Alors, ce que peut faire Obama maintenant, ce que peut faire le gouvernement Obama, c'est effectivement tenter de réglementer les armes d'assaut. Alors, c'est une catégorie qui est un petit peu difficile à définir. Ça n'est pas forcément la catégorie la plus utilisée dans les homicides. La catégorie la plus utilisée, ça va être des petites armes, des armes de poing, hein, pistolet ou revolver. Mais la Cour suprême qui, aux États-Unis, dit si les lois sont constitutionnelles ou non, a déclaré en 2008 que le second amendement à la Constitution protégeait bien la détention par les particuliers de pistolets et de revolvers.
Donc on ne peut plus toucher à ces... Là, il faut absolument détailler, Didier Combeau, parce que, en fait, il y a eu longtemps un débat sur ce fameux article de la Constitution américaine qui dit, en gros, que n'importe qui, et je fais exprès d'utiliser cette formule, n'importe qui peut posséder et détenir une arme. En fait, ce n'importe qui, c'est people, quoi. C'est le mot people. Mais le mot people, c'est quoi? Est-ce que c'est le peuple ou est-ce que c'est le citoyen?
Effectivement, le mot people a ses deux significations en anglais. Le plus souvent, le people veut dire les gens. Ce que dit le second amendement, il faut revenir au texte pour comprendre. Il dit « Une milice bien administrée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple à détenir et à porter des armes ne sera pas entravé. » Alors, les partisans du droit aux armes n'ont retenu que la deuxième partie de cet amendement. Le droit du peuple à détenir des armes ne sera pas entravé. Ce qu'ont dit les partisans du contrôle pendant plusieurs dizaines d'années, c'est que en réalité, ce n'était pas comme ça qu'il fallait le comprendre, parce que la première partie de l'amendement, qui parle d'une milice bien administrée, qui est nécessaire à la sécurité d'un État libre, signifie que ce sont les États fédérés qui ont le droit de s'armer, et non pas les gens. Et donc, il faut comprendre le peuple dans son ensemble. Les États fédérés, c'est-à-dire les 50 États des États-Unis. La milice dont on parle étant une armée de conscription que pouvaient lever les États fédérés, ce qui leur permettait de s'opposer, de faire contrepoids, en tout cas, au gouvernement fédéral qui, lui, pouvait entretenir une armée de métier.
Ce débat, il a été tranché par la Cour suprême, c'est donc le droit individuel qui prime aujourd'hui.
Voilà, alors ce débat, il n'avait pas été tranché par la Cour suprême pendant tout le XXe siècle, hein. Le dernier arrêt remontait à 1939 et il n'était pas clair du tout. Mais la Cour suprême a fini par se saisir de cette question et en 2008, elle a indiqué que le deuxième amendement ouvrait bien le droit aux particuliers, le droit aux armes aux particuliers. Elle a même expliqué pourquoi, elle a expliqué que ce second amendement ouvrait le droit aux armes pour que les Américains puissent assurer leur autodéfense.
Donc paradoxalement, au fond, ça a favorisé l'accès aux armes.
Ah oui, le second amendement maintenant protège le droit aux armes des individus.
Si on revient un petit peu en arrière, Didier Combeau, si on essaie de faire un peu l'histoire des différentes mesures de contrôle, quelles sont les grandes mesures qui existent en matière de limitation, de contrôle, de circulation, de port d'armes? La première loi, c'est 1911, l'État de New York.
Oui, la première loi adoptée, en tout cas à l'échelle d'un État, c'est en 1911 dans l'État de New York. Et c'est une loi qui institue des permis de port, des permis de détention, etc., qui est tout à fait inefficace parce qu'elle est, adoptée surtout pour la ville de New York, hein, qui se situe, on le sait, tout près de l'État du New Jersey, par exemple. Donc les New-Yorkais n'avaient qu'à passer un pont pour aller chercher des armes dans l'État voisin. Donc c'est une loi qui n'a pas été très efficace. Dans les années 20, le débat s'est étendu à l'ensemble des États-Unis, hein, surtout après l'adoption de la prohibition, hein, du fait de la vague de criminalité. Dans les années 30, le gouvernement Roosevelt est parvenu à faire interdire les armes automatiques, c'est-à-dire les mitraillettes, hein, qui étaient beaucoup utilisées par les gangsters à cette époque. Et puis ensuite, il ne se passe plus rien jusqu'aux années 60. Pendant une trentaine d'années, le débat n'est plus un débat de premier plan. Et puis dans les années 60, on a l'assassinat du président Kennedy, l'assassinat de Martin Luther King, l'assassinat de Robert Kennedy. Et là, le gouvernement Johnson donc, se saisit à nouveau de cette question et parvient à faire interdire l'accès aux armes aux déficients mentaux et aux repris de justice. Mais sans mettre en place des systèmes de contrôle qui soient très efficaces en même temps. Ce qu'aurait voulu le gouvernement Johnson, c'est un enregistrement de toutes les armes. Et il n'est pas parvenu à faire adopter cette mesure.
Pour quelle raison ?
Et puis la dernière étape au cours du
20e... Pourquoi il n'a pas réussi à mettre justement en place ce dispositif permettant d'enregistrer toutes les armes ?
Parce qu'il y avait une opposition trop forte au Congrès, donc il n'est malheureusement pas parvenu à faire passer cette mesure auprès de la Chambre des représentants.
Et puis on avance dans le temps, les années 80, loi Brady.
Dans les années 80 et surtout 90, hein, alors on a un retour en arrière d'ailleurs au temps de Reagan, hein, puisqu'il y a le Firearms Owners Protection Act, qui est la loi de protection des propriétaires d'armes, qui libéralise un petit peu le port d'armes. Dans les années 90, on a un certain nombre de fusillades qui se produisent, entre autres dans des écoles d'ailleurs, et comme à Newtown. Et le gouvernement Clinton se saisit de cette question des armes et fait adopter une loi qui oblige les armuriers licenciés au niveau fédéral conduire un contrôle des antécédents psychiatriques et judiciaires avant de pouvoir vendre une arme.
Ça, c'est la loi Brady.
Ça, c'est la loi Brady.
Qui porte le nom, en fait, de cet homme qui était un conseiller de Reagan. Oui. Reagan qui avait été aussi visé par une tentative d'assassinat.
Voilà, qui avait été très grièvement blessé lors d'un attentat contre Reagan en 1981. Mmh. Et donc, cette loi Brady, elle a été mise en place et elle est toujours d'actualité. Mais elle ne s'applique qu'aux ventes d'armes neuves. Elle ne s'applique pas aux ventes d'armes d'occasion.
Et ça, c'est un vrai souci.
Et c'est un vrai souci, effectivement. Puisque lorsqu'il y a une vente d'armes neuves, donc par un armurier patenté au niveau fédéral, il y a ce contrôle des antécédents. Et puis cette vente est enregistrée. Mais à partir du moment où le détenteur d'armes la revend d'occasion, là, il n'y a plus ni enregistrement, ni contrôle des antécédents. Et donc, l'arme se perd dans la nature.
Et ça, c'est extrêmement fréquent. Il y a plus de 4000, presque 5000, ce qu'on appelle des gun shows, c'est-à-dire des foires aux armes, tout simplement.
Des foires aux armes.
On peut arriver et acheter à peu près n'importe quelle arme sans véritablement que ce soit contrôlé, en fait.
Oui, parce que dans ces foires aux armes, il y a effectivement des armuriers patentés, mais il y a aussi des particuliers qui viennent vendre leurs armes en circulant dans les travées, tout simplement, même sans avoir de stand.
Donc là, extrêmement difficile pour Obama de contrôler quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ?
Alors, ce que veut faire le gouvernement Obama, c'est l'extension du contrôle des antécédents aux ventes d'armes d'occasion. C'est une loi qui parviendra peut-être à passer, qui aura une certaine efficacité. Malheureusement, il est très difficile de contrôler que quelqu'un ne vend pas son arme d'occasion, puisque les armes ne sont pas enregistrées, et donc on ne pourra jamais prouver que l'arme a été vendue ou pas. Never fight if you can avoid it. But when you must fight, don't lose. And when nothing less than freedom is at stake, we fight. We're millions of people just like you. We're the longest standing civil rights organization in the U.S. Proud defenders of history's patriots. Protectors of the Second Amendment. Advocating the right to keep and bear arms. Advancing the shooting sports. Championing gun safety, education, and training. Creating a vital legacy by answering freedom's call.
and we're growing stronger every day. We are the NRA, and the NRA is you.
Nous sommes la NRA. Ce que vous entendiez là, c'était le clip de promotion qu'on trouve sur le site internet de la NRA, la National Rifle Association. En quelques mots, hein, je vous traduis, c'est ne vous battez pas si vous pouvez l'éviter. Mais si vous devez vous battre, alors ne perdez pas. Et lorsque rien d'autre que la liberté est en jeu, on se bat. On est des millions comme vous, la plus ancienne organisation de défense des droits des États-Unis. Patriotes, nous sommes des fervents défenseurs du Second Amendement, considérant que l'on a le droit de posséder des armes. Cette NRA, cette National Rifle Association, elle est née en 1871, hein, du côté de l'État de New York, encore une fois. À l'origine, c'est des circonscrits, en fait, hein, qui doivent s'entraîner.
Oui, à l'origine, ce n'est pas du tout une association de défense du droit aux armes. C'est une association qui a été mise en place par un ancien militaire et un correspondant de guerre à la suite de la guerre des Boers, hein, en Afrique du Sud, parce que, où les États-Unis n'étaient pas impliqués, mais ils se sont rendus compte qu'une armée moderne devait comprendre des soldats qui savaient bien pratiquer le tir. Et donc le but de cette association, la National Rifle Association, a été de permettre l'entraînement au tir des conscrits qui rejoignaient les gardes, les milices des États.
Aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de 4 millions de membres dans cette NRA. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment se fait-il qu'aujourd'hui elle soit aussi puissante, cette association?
Alors, elle est puissante parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont attachés aux armes à feu et parce que la National Rifle Association est une association qui les représente. Alors, il est probable que le leadership de la National Rifle Association est plus radical que les membres individuels. Mais la National Rifle Association n'est pas perçue par tout le monde aux États-Unis comme une association extrémiste, contrairement à la perception que nous avons.
Quels sont les arguments en général qui sont utilisés par les pro-armes et notamment par la NRA?
Alors, les arguments, ils sont très simples. C'est que lorsque l'État, le gouvernement interdit l'accès aux armes, il désarme les citoyens honnêtes, mais que les délinquants, eux, parviendront toujours à se procurer des armes. Et donc, que le contrôle des armes crée un déséquilibre au détriment des citoyens honnêtes par rapport aux délinquants.
Quand j'ai lu un petit peu la documentation pour préparer cette émission, j'ai appris que depuis la tuerie de Newton, alors je ne sais pas si les chiffres sont exacts ou pas, mais en tout cas que la NRA aurait depuis cette tuerie 100 000 membres de plus. C'est assez étonnant en fait d'imaginer qu'au fond ce genre d'événement, ce genre de tuerie a plus tendance à renforcer le parti des pro-armes. On pourrait imaginer quand même que c'est plutôt pendant un moment en tout cas, les anti-armes qui tirent un bénéfice entre guillemets de ce genre d'événement.
Non, c'est pas surprenant. Et après toute fusillade médiatique, le nombre d'armes, les ventes d'armes progressent parce que il y a des gens qui pensent que dans la mesure où on est dans un monde dangereux et la fusillade prouve qu'on est dans un monde dangereux, il est raisonnable de s'armer. Et d'ailleurs, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont pris la parole pour dire que si la directrice de l'école ou si les professeurs avaient été armés à Newtown, ils auraient pu stopper le tueur avant qu'il y ait autant de victimes. Et donc, je ne suis pas surpris que le nombre d'adhérents de la National Rifle Association augmente. Et puis, dans la mesure où il y a ces propositions de loi qui sont faites par le gouvernement Obama, eh bien, les gens pour qui les armes occupent une place très centrale dans la vie vont avoir tendance à adhérer à la NRA s'ils ne l'ont pas déjà fait auparavant.
Alors, je repose la question dans un autre sens, mais vous n'avez pas le sentiment quand même que c'est étonnant de voir que le parti anti-armes, pour le coup, il est beaucoup plus faible que les pro-armes. Tout de même, il y a un déséquilibre réel sur cette question-là.
Oui, alors il y a un déséquilibre réel à la fois sur le plan financier et sur le plan humain, puisque si on prend les groupes de pression pour le droit aux armes, ils pèsent environ 12 millions de dollars, alors que la NRA, ça va être aux environs de 130 millions de dollars. Donc c'est un rapport de 1 à 10 en termes financiers. En termes humains, c'est un rapport à peu près équivalent. Et alors pourquoi? Parce que, encore une fois, la National Rifle Association, c'est certes un groupe de pression politique, mais c'est aussi une association de gens qui ont un hobby, qui partagent un hobby. Donc ces gens-là, ils se rencontrent sur les stands de tir, ils se rencontrent lors des compétitions, ils se rencontrent dans les armureries, ils se rencontrent dans les foires aux armes. Alors que les partisans du contrôle des armes, il y a des gens pour qui c'est extrêmement central dans leur vie parce qu'ils ont été victimes des armes.
Mais ils sont
les sympathisants, pour les sympathisants, c'est un sujet de préoccupation parmi d'autres. C'est beaucoup moins central. Donc, à part ce noyau dur de victimes pour qui vont se déterminer peut-être au moment des élections sur ce sujet-là, les sympathisants, ils vont se déterminer sur ce sujet-là, mais sur d'autres aussi. Et en revanche, les partisans du contrôle des armes, les partisans du droit aux armes, vont eux très souvent voter, où il y a en tout cas un noyau dur important qui va voter uniquement sur ce critère-là.
Ce qui peut laisser penser finalement que quand on est un responsable politique, on a tout à perdre à s'engager dans un combat anti-armes.
Oui, effectivement, c'est extrêmement dangereux pour un.
C'est coûteux en tout cas.
Coûteux en tout cas pour un candidat de surtout pour un candidat qui aurait des ambitions nationales. Puisque si on voit par exemple dans l'État de New York, on voit des gens comme Bloomberg, le maire de New York, qui s'engage très fortement pour le contrôle des armes. En revanche, lorsque ces personnalités-là veulent accéder à la présidence, s'ils veulent être candidats à la présidence, ça devient beaucoup plus difficile pour eux parce que dans tous les États balance, les swing states, le fait d'être partisan du contrôle des armes peut faire perdre un État.
Là, c'est plutôt avantageux pour Barack Obama, puisqu'il n'a plus rien véritablement à perdre, je dis, sur son second mandat.
Voilà, c'est peut-être la raison pour laquelle il se saisit de cette question, parce qu'il a été très prudent au cours de son premier mandat. Il y a eu d'autres fusillades. Il y a eu Newtown, il y a eu Aurora, il y a eu Tucson, il y a eu d'autres fusillades, mais à chaque fois, il s'est bien gardé de plaider pour le contrôle des armes.
Quel regard vous portez sur le plan qui a été présenté il y a quelques jours, le 16 janvier dernier, avec ces 23 décrets.
Alors, les décrets visent à faire appliquer les lois. On parlait de la loi Brady tout à l'heure. Ils visent, par exemple, à créer des bases de données plus fiables concernant les antécédents psychiatriques en particulier et judiciaires également, puisque il faut que les États contribuent à la base qui est entretenue par le FBI. Ces décrets vont certainement permettre d'appliquer les lois un petit peu mieux. Ils seront loin d'être suffisants. Et les propositions législatives, il faut un petit peu les décrypter. Lorsqu'on dit on veut étendre les contrôles des antécédents à toutes les ventes, c'est une loi de contrôle des armes, certes, mais qui va aussi dans le sens des partisans du droit aux armes. Parce que si on interdit l'accès aux armes aux délinquants et aux gens qui ont des problèmes psychiatriques, ça veut dire aussi qu'on l'ouvre au reste de la population. Donc ça permet d'éviter d'interdire les armes à tout le monde. Oui, c'est déjà ouvert, mais c'est une sorte d'alternative à l'interdiction pure et simple de certaines armes. On n'interdit pas ces armes-là, mais on prend des mesures qui permettent d'éviter que les gens qui en feront mauvais usage, en quelque sorte, puissent les obtenir. C'est ce que demandent les partisans du droit aux armes.
Didier Combeau, va poursuivre nos discussions. On va aller du côté du Brésil. Quand on regarde un petit peu les chiffres, par exemple, sur 2010, il y avait eu 35 000 personnes au Brésil qui avaient été tuées par arme à feu. En 2003, il y a une loi quand même qui prévoyait une série de conditions pour pouvoir acquérir une arme, on doit avoir un casier vierge, on doit passer des examens psychologiques, on doit aussi justifier du besoin d'avoir une arme. Mais évidemment, en pratique, il y a beaucoup d'armes qui sont non enregistrées, près d'un tiers, on dit, et il y a un véritable marché parallèle qui rend l'accès aux armes extrêmement facile. Direction Brésil. Morro do Dendê é ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Lá não tem mole nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até o Bop treme. Não tem mole pro exército civil nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus. Cette voix, ces voix que vous entendez derrière nous, c'est... Cidinho et Doca sont deux rappeurs qui font l'apologie des armes et qui d'ailleurs régulièrement sont censurés. On retrouve tout de suite depuis Rio Rubem César Fernandez. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue. Merci, vous êtes anthropologue, vous êtes écrivain, vous êtes président de l'ONG Viva Rio, qui est née dans les années 90, pour essayer d'apporter un peu des réponses à la violence urbaine, notamment la violence causée par les armes à feu. Vous menez des campagnes d'information, vous essayez de faire pression sur les autorités pour faire évoluer un peu la législation. Il y a une question, Ruben César Fernandez, que j'ai absolument envie de vous poser pour commencer. 2005, les Brésiliens rejettent par référendum une interdiction pure et simple des armes. Les sondages, au départ, prévoyaient une victoire du oui, quelques mois avant le vote. Et puis, finalement, il y a un retournement des choses et le non l'a emporté avec 64% des suffrages. Comment l'expliquer? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, le référendum, la démocratie directe, elle est porteuse de surprises. Elle répond à ce qui se passe dans les moments. C'est le problème de la relation directe de l'opinion sur la politique, non? Elle répond toujours à ce qui s'est passé hier, non? Alors là, les mois de juillet à octobre, en 2005, il y avait une certaine crise du pouvoir public dans les pays, des dénonces des problèmes de corruption qui ont monté beaucoup l'opinion de qu'on n'était pas capable de faire vraiment confiance au pouvoir public. Il y a une crise d'image du pouvoir public à ce moment-là. Et c'est ça que nous croyons à faire la différence. Mmh. Et que les gens ont tombé sur l'argument de que oui, il faut compter sur soi-même plutôt que sur la vigilance publique. Mmh. Mais il faut aussi se souvenir de l'année 2003, qui est plus important. C'est l'année qu'il y a eu le vote de la loi qui est toujours là, c'est notre loi pour les armes au Brésil, et qui pose des conditions assez dures pour l'achat des armes et l'achat des munitions. Alors la loi que nous avons n'est pas mauvaise, c'est une loi dure sur le contrôle des armes, et ça revient à l'année 2003.
Justement, Ruben César Fernandez, il y a 2003, il y a cette loi, et puis juste après, en 2004, dans la foulée, le ministère de la Justice lance une grande campagne destinée à désarmer un peu le pays. Est-ce qu'il est parvenu, justement, à récupérer un peu des armes à feu? Et quel effet ça a eu sur le taux d'homicide au Brésil, Ruben César Fernandez?
Oui, à ce moment-là, on a fait une campagne assez intéressante parce qu'il y avait les pouvoirs publics, les ministères de la Justice, et puis une participation de la société. Les églises et quelques ONG étaient autorisées à recevoir les armes des gens qui volontairement rendaient des armes pour être détruites. Et dans une année, on a détruit plus de 500 000 armes entre 2004 et 2005. Alors ça, c'était une campagne assez bien réussie dans les pays, impressionnant. Et l'image de l'arme à ce moment-là, c'était que l'arme est dangereuse. C'était surtout l'opinion des femmes. La majorité des gens qui venaient rendre les armes volontairement étaient des femmes, souvent des veuves, mais aussi des femmes plus âgées que 40 ans, qui avaient peur pour leurs enfants, dans la maison.
Mais finalement, Ruben César Fernandez, en vous écoutant, je me dis, bon, 500 000 armes, c'est bien. S'il y en a 16 millions, c'est quand même assez peu. Si de surcroît, au fond, ce sont des gens, comme vous le disiez, plutôt des femmes, souvent des veuves, qui sont plutôt, au fond, des profils, pas des profils de meurtriers. Est-ce qu'il y a eu des membres de gangs qui ont rendu leurs armes? Pas sûr du tout.
Non, ça, c'est le boulot de la police. Mmh. Il faut avoir une politique de sécurité publique qui pose comme priorité le contrôle des armes à feu, le contrôle du tir, le contrôle de la violence armée. Ça se passait à Rio depuis il y a comme 4-5 ans qu'on a finalement réussi à avoir une politique qui mise justement le but central de la stratégie de sécurité publique, dans le contrôle du territoire par la police, par l'État et surtout de la violence armée. N'est-ce pas? Et ça, c'est la politique qu'on appelle politique de pacification dans les bidonvilles de Rio. Et ça, c'est bien réussi, vraiment. Finalement, les taux d'homicide à Rio, ça tombe régulièrement chaque année depuis 4 ans, 5 ans.
Je voudrais faire réagir dans un instant Didier Combeau, mais encore un mot, Rubem César Fernandez. Quels sont, à votre avis, aujourd'hui, les obstacles à la fois sociaux et culturels qui existent au Brésil, précisément, et qui ralentissent le processus de désarmement du pays ?
C'est complexe. D'abord, le pays est en grande partie encore un pays d'une société, d'une économie informelle. L'informalité est partout dans les marchés, dans la vie sociale du pays. Pour les cigarettes, il y a 20% des cigarettes au pays qui sont vendues d'une façon informelle. Et aussi bien pour les armes. On a fait des études qui on estime qu'un tiers des armes dans le pays sont des armes informelles, c'est-à-dire des armes qui ne sont pas registrées dans le système légal. Alors ça fait qu'il y a une possibilité de migration constante du secteur pas criminel, du secteur citoyen, pour les secteurs criminels. Les crimes, les délinquants ont toujours la possibilité de chercher des armes avec les citoyens. Il y a là une quantité assez importante d'armes qui ne sont pas contrôlées par l'État. Et alors, en plus du vol que ça se passe, des armes des citoyens par les bandits, il y a simplement là le marché, la vente. Il y a quelqu'un qui a le droit d'acheter des armes. Il veut changer, surtout les gens qui appartiennent au secteur de l'État, qui est professionnel des armes, les armées, les polices, les vigilants professionnels. Ils ont le droit de s'acheter des armes directement à la production. Je sais que le fait mieux marcher. Alors, souvent, ils font ça. Ils s'achètent de nouvelles armes. Ils vendent les vieux, les anciennes. Alors ça, il y a un marché informel qui est toujours alimenté par la société civile elle-même.
Didier Combeau, vous voudriez...
Alors ça pose un problème.
Didier Combeau voudrait réagir ici en plateau. Didier Combeau.
Oui, il y a le même problème aux États-Unis, qui est cette question de la récupération des armes qui sont déjà en circulation, puisque le nombre d'armes en circulation aux États-Unis, on ne le connaît pas, mais sur un sondage sorti des urnes en 2008, 40% des foyers ont déclaré posséder une arme. Donc on peut penser qu'il y a quelque part entre 100 millions ou 300 millions d'armes aux États-Unis. On entend ces chiffres-là qui circulent assez fréquemment, mais ils sont probablement exacts, même si la fourchette est large. Et il y a eu des programmes de rachat d'armes également au point de vue sur le plan local. Hein, beaucoup de municipalités ou des États ou des associations se sont préoccupés d'essayer de racheter des armes. C'est des programmes qui ont été critiqués parce que les armes récupérées ne sont pas celles en général des gangs, hein, comme vous le faisiez remarquer. Ce sont quelquefois des armes anciennes, pas très utilisables, et puis ce sont des programmes qui coûtent relativement cher. Et encore une fois, les partisans du droit aux armes disent oui, mais... ces programmes-là, finalement, ils servent à désarmer les citoyens honnêtes, mais jamais les délinquants vont venir vendre leurs armes, même si dans ces programmes de rachat d'armes, en général, il n'y a aucune question posée. C'est-à-dire, vous rapportez votre arme, votre identité n'est pas enregistrée, donc un délinquant peut très bien rapporter une arme sans courir de risque, mais on peut quand même douter de l'efficacité pour désarmer les délinquants.
Dans le cas du Brésil, hein, c'était le cas. Hein. Les gens qui rapportaient leur arme recevaient un peu d'argent, c'est entre 40.
Plus, aux États-Unis, ce sont plus des opérations de communication en réalité que des opérations efficaces pour faire diminuer le nombre d'armes.
Au Brésil, c'était des primes qui allaient de l'ordre de 100 à 300 réals, c'est-à-dire entre 40 et 125 euros. Je repose ma question, Rubem César Fernandez. Que vous me parliez du marché informel, évidemment, ça c'est une chose, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être des obstacles, j'allais dire, réellement culturels pour le coup avec Didier Combeau, on en parlait aux États-Unis, on sait combien les armes à feu sont dans l'ADN des Américains. Au fond, être américain, c'est posséder une arme à feu. Est-ce qu'on n'a pas aussi quelque chose de cet ordre-là du côté du Brésil ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cet état de fait qu'au Brésil, c'est très prestigieux d'avoir une arme à feu aussi ?
C'est un peu différent. Au Brésil, c'est un signe d'autorité, de pouvoir. Ce n'est pas un signe de citoyenneté d'être quelqu'un. Et normal, c'est d'un citoyen, d'un Brésilien. Et on pense au Brésil dans la tradition... Les gens du pouvoir et les bandits ont accès aux armes. Alors, tandis que les gens communs ne possède pas. Par exemple, dans les favelas de Rio, c'est difficile d'avoir une arme. C'est une affaire du bandit qui a le pouvoir dans ces régions. Et une autre chose qui peut être différente, c'est qu'au Brésil, je crois qu'aux États-Unis aussi, mais la majorité des armes utilisées dans les crimes sont des armes à feu des mains. C'est le revolver, c'est la pistole. Ce n'est pas les armes de longueur et de vitesse. Ce ne sont pas les armes militaires, disons. À chaque 10 armes utilisées dans les crimes au Brésil, 9 sont des armes à main, sont des pistolets, des revolvers, qui font partie de ces marchés informels. Dans les armes qu'on a reçues dans les campagnes volontaires de désarmement, il y a eu, oui, des armes importantes, des armes qui ont été possibles d'être utilisées dans les crimes, sans doute. Ce n'était pas ça le cas. Le problème, c'est qu'au Brésil, on estime environ 15 millions d'armes aujourd'hui dans le pays, tandis qu'on a recueilli 500 000. Alors, ça fait une petite partie de le stock, n'est-ce pas? Mais l'impact de la campagne, c'est surtout un impact d'opinion, de former l'idée, l'image que l'arme est dangereuse, que l'arme est une affaire pour des professionnels.
Et donc, c'est une campagne qui est évidemment très lente, qui prend du temps, qui se fait vraiment sur le long terme. Encore un mot, Didier Combeau, sur ce point-là.
Oui, je trouve très intéressant ce que dit Rubensar Fernandez sur l'aspect marqueur social de l'arme et le fait qu'au Brésil, il n'y a pas cet aspect, cette dimension de citoyenneté qui, aux États-Unis, est très importante. Hein. L'arme n'est pas seulement un marqueur social, c'est aussi un marqueur politique. Les citoyens doivent pouvoir être armés pour pouvoir prendre les armes contre le gouvernement si le gouvernement devenait tyrannique.
Ce qui n'est pas le cas au Brésil. Le Brésil, c'est vraiment associé, nous le disait, à l'autorité.
Voilà, exactement. Aux États-Unis, il y a un aspect, la possession d'une arme est beaucoup plus liée à la citoyenneté et à l'identité américaine.
Merci en tout cas infiniment, Rubem César Fernandez, d'avoir été avec nous en direct ce matin depuis Rio. Je rappelle, vous êtes anthropologue et président de cette ONG Viva Rio. Un grand merci. Il est 11h passé 36 minutes. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde. L'heure pour nous de retrouver la chronique d'Alexis Ibatov-Steff, la chronique Frontières. Alexis qui ce matin se demande, se demande ce qu'on fête exactement aujourd'hui. Écoutez.
Vous vous souvenez peut-être de ce tube, Libéré Nelson Mandela, enregistré par le groupe Special AK. Il fête cette année son 30e anniversaire et s'écoute toujours aussi bien, je trouve, même si les paroles sont carrément datées. À l'époque, quand je faisais mes études en URSS, les vacances universitaires d'hiver tombaient lors de la dernière semaine de janvier. On passait notre temps à écouter cette chanson, à boire et à regarder dans le calendrier. Il ne fallait surtout pas juste se saouler la gueule chaque soir, mais le faire d'une manière intellectuellement enrichissante. Du genre, tenez chers amis, le 28 janvier, l'anniversaire d'Henri VII, roi d'Angleterre. Quelle belle occasion de lever nos verres et méditer sur l'histoire britannique. Mais qui va honnêtement fêter l'anniversaire d'Henri VII aujourd'hui, sauf quelques excentriques. Pas très convaincant pour une fête fédérant tout le monde, n'est-ce pas? Les chrétiens peuvent fêter leur saint, c'est sûr. Le 28, c'est aussi la journée mondiale des lépreux, créée à l'initiative de la fondation Raoul Folero. Les Européens peuvent toujours trinquer à l'occasion de la journée de la protection des données, initiative du comité de ministres du Conseil de l'Europe. Sur le site des Nations Unies, vous trouverez facilement la liste des journées, semaines, années et décennies vraiment transfrontalières, internationales, reconnues par tout le monde. Curieusement, cette semaine, il n'y a strictement rien à fêter tous ensemble. Entre la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, le 25 janvier, et le 4 février, la journée mondiale contre le cancer, il n'y a strictement aucune journée internationale. En tout, pendant 264 jours de l'année, on ne commémore rien, on ne célèbre pas, on ne protège point. Mais il y a des journées comme le 21 mars où, en revanche, il y a un véritable choix.
Dancing in the streets, resolving quarrels and paying tributes. Nowruz, the spring festival of Persian origin, has been celebrated for over 3 millennia.
La chaîne Euronews fait écho d'une fête européenne. L'Azerbaïdjan célèbre Nowruz, le nouvel an zoroastrien, l'équinoxe du printemps. La fête est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO et fait partie des journées des Nations Unies. Très bien. Mais le même jour, l'ONU vous propose de marquer la Journée internationale des forêts et des arbres, la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale et les 2 journées mondiales de la poésie et de la trisomie. Je pourrais vous expliquer la différence entre une journée internationale et une journée mondiale, mais je trouve que c'est déjà suffisamment confus pour ce qui est de la journée de l'équinoxe. Si l'on jette un regard sur la longue liste des causes et des fêtes que l'on est censé célébrer ensemble en tant qu'humanité, on note tout de suite que le mot « célébrer » n'est peut-être pas le plus approprié. Car avant et après chaque occasion de trinquer, comme lors de la journée mondiale de la radio, le 13 février, on trouve 2 autres occasions pour sombrer dans le désespoir. La journée internationale suivante, le 20 février, est consacrée à la justice sociale et la précédente, le 6 février, à la tolérance zéro face aux mutilations sexuelles féminines. Ce qui me frappe aussi, c'est le caractère extrêmement sélectif des causes à honorer ensemble. Pourquoi diable, parmi tous les animaux, ce sont uniquement les oiseaux migrateurs qui ont eu leur journée? Pourquoi, de toutes les musiques, l'ONU a décidé de célébrer uniquement le jazz? Pourquoi le sida a sa journée, mais pas l'obésité, qui tue davantage? Pourquoi, de toutes les fêtes religieuses et nationales, c'est uniquement Nowruz qu'on est censé célébrer d'une manière internationale? Pourquoi la seule personne qui a une journée internationale qui porte son nom est Nelson Mandela? Et pourquoi, même quand la cause n'a plus aucun sens, on ne la supprime jamais du calendrier de l'ONU?
Frontières, la chronique d'Alexis Patovstev que vous pouvez retrouver sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, un site sur lequel vous pouvez écouter, réécouter toutes les chroniques Frontières, mais aussi toutes les émissions de France Culture et Culture Monde, évidemment en particulier. On va rester dans ce contexte sud-africain. On parle aujourd'hui du contrôle des armes dans le monde avec Didier Combeau, en particulier avec vous, Didier Combeau, la question des États-Unis. On va aller du côté justement de l'Afrique du Sud, qui est souvent évidemment un des pays les plus violents au monde, notamment pour son taux de meurtre par arme à feu, c'est 17 pour 100 000 habitants. C'est à peu près la même chose que pour le Brésil dont on parlait juste avant. Cette circulation des armes à feu, elle a été un gros problème dans les années qui ont suivi l'apartheid. Les fermiers blancs ont eu tendance évidemment à se méfier des noirs, craignant des règlements de compte, des vengeances. Donc ils se procuraient des armes dans la perspective de se protéger, un peu d'ailleurs comme on le voit du côté des États-Unis. Et écoutez, ce qu'on entend derrière là, c'est... Kill the Bauer, Kill the Farmer, ça c'est Julius Malema, qui est l'ancien président de la Ligue de Jeunesse de l'ANC, du Congrès National Africain. On le connaît pour ses propos, ses discours un peu controversés. Il avait fini par être exclu du parti l'année dernière. Cette chanson, elle date justement de la lutte, du temps de la lutte contre l'apartheid. Malema a d'ailleurs eu un procès pour ça. On a voulu lui interdire de chanter cette chanson. Elle a été déclarée contraire à la Constitution. C'était en mars 2010. Donc normalement, on ne devrait plus pouvoir la chanter, mais il arrive... même au président sud-africain lui-même, de la chanter dans ses meetings. Il l'avait fait d'ailleurs, c'était lors du 100e anniversaire de l'ANC. Je voudrais qu'on retrouve tout de suite Anne Dicèze. Anne Dicèze, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une journaliste, vous avez été longtemps correspondante en Afrique du Sud et puis vous êtes l'auteur de ce livre « Afrique du Sud, enjeu de la nation arc-en-ciel » qui était paru chez l'Harmattan en 2010. Ce chant que vous entendez, évidemment, il retentit de manière très particulière aujourd'hui lorsqu'on sait que, en plus, ces meurtres de fermiers blancs, ils continuent. C'est un rythme d'à peu près 100 chaque année depuis 1994.
Oui, il continue. Enfin, il est quand même un petit peu en baisse, mais c'est vrai qu'il continue. Enfin, il est en tout cas fluctuant selon les moments de tension qu'il y a en Afrique du Sud. Et en ce moment, il y a un peu de tension en Afrique du Sud et il pourrait y en avoir dans les mois qui viennent, jusqu'aux élections de 2014.
Mmh. Cette culture des armes à feu, elle est très forte chez les vieux fermiers blancs des campagnes. Est-ce que quand même c'est un phénomène qui est toujours aussi prégnant ou est-ce que ça diminue réellement? Est-ce que les nouvelles générations de blancs ont encore cet attachement viscéral aux armes à feu?
Non, je crois que ça touche vraiment une génération qui est en voie de disparition par l'âge. Ça touche vraiment ceux qui ont connu les violences de l'apartheid, ceux qui ont connu les violences aussi de la fin de l'apartheid. Et c'est vrai que beaucoup de fermiers, c'était des cibles très très principales qui étaient de contre les armes. Mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, il y a un sentiment un peu général dans la société, notamment chez les nouvelles générations, enfin chez les jeunes et même chez les 30-40-naires. Hein. Ça va un petit peu loin, qui fait que plutôt on n'aime pas demander une licence, par exemple, pour avoir une arme légale, parce que on se sent la cible. Et c'est tout à fait vrai dans les populations rurales. C'est-à-dire que beaucoup d'attaques de fermiers qui ont eu lieu dans ces dernières années, pas seulement aujourd'hui, mais dans ces dernières années, depuis 1994, en général, étaient des attaques contre des fermiers dont on savait qu'ils avaient dans leur coffre fort, parce que c'est obligatoire de stocker des armes dans un coffre fort quand on a une licence, qui avaient pas mal d'armes dans leur coffre. Et c'était surtout ceux-là qui étaient visés plutôt que des vengeances. Il y a certainement une part de vengeance, de ressentiment, de règlement de comptes sociaux, mais c'était surtout ça qui était visé.
C'est difficile aujourd'hui de se procurer une arme à feu en Afrique du Sud? Il y a des vérifications d'identité, de dossiers?
Il y a une nouvelle loi qui a été promulguée en 2004 et qui a remplacé celle de 1969. Entre-temps, il n'y avait rien eu. Et pour le certificat de compétence, oui, c'est beaucoup plus difficile. Il a été beaucoup plus durci. Par exemple, il est passé, l'âge légal pour avoir une arme est passé de 16 ans antérieurement à 21 ans. Bon, il y a une exigence de nationalité, il y a un contrôle de stabilité mentale, il y a aussi un contrôle d'addiction, de dépendance alcoolique ou bien des drogues. Il est nécessaire d'avoir bien sûr un casier judiciaire vierge à l'intérieur de l'Afrique du Sud, mais aussi à l'extérieur. Bon, et puis il y a surtout un examen, une sorte d'examen fait par des institutions qui ne sont pas des institutions de l'État, qui peuvent être des institutions privées, mais de contrôle du maniement de l'arme demandée. Mmh. Voilà. Et il y a eu aussi une réduction de la validité de la licence. Elle est de 5 ans pour les armes. Pour les licences courantes, enfin pour le business ou pour le self-défense, mais elle est de 10 ans pour les chasseurs.
Didier Combeau, réaction vue d'ici, vue des États-Unis, puisque vous êtes un spécialiste des États-Unis, qu'est-ce que ça vous inspire cet exemple sud-africain?
Je constate à l'énoncé de ces lois qu'elles sont nettement plus sévères que les lois américaines. Je pense en particulier, il y a un détail qui attire mon attention, c'est l'obligation de conserver son arme dans un coffre-fort. La Cour suprême des États-Unis, dans son arrêt de 2008, hein, l'arrêt Heller, a indiqué clairement qu'il n'était pas possible d'adopter une loi qui obligerait les gens à garder leur arme dans un coffre-fort, parce que le second amendement ouvrait le droit à l'autodéfense et qu'une arme qui se trouve dans un coffre-fort est difficilement utilisable pour l'autodéfense.
Mmh. Anne Dissès, toute dernière question, parce qu'on arrive au terme de cette question, mais de cette émission, mais est-ce qu'on retrouve en Afrique du Sud un lobby pro-arme, un petit peu comme ce qu'on peut retrouver du côté des États-Unis, la NRA par exemple?
Non, c'est pas un lobby très organisé. Oui. Il existe, mais de manière extrêmement marginale. Et il existe autour des gens qui défendent, des ruraux surtout, des syndicats d'agriculteurs. Il y a eu de grandes tensions en Afrique du Sud avec l'annonce de la réforme agraire en 94. Cette réforme ne marche pas très bien. En tout cas, elle n'est pas très effective du point de vue des objectifs du gouvernement. Et aujourd'hui, les grands fermiers, les gens qui vivent dans les grandes fermes, ont repris confiance d'une certaine manière. Et donc, de fait, ils n'ont plus senti le besoin de se défendre comme dans le passé.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Anne Dissès. Je rappelle, donc journaliste, ancienne correspondante en Afrique du Sud et puis auteur de ce livre « Afrique du Sud, enjeu de la nation arc-en-ciel » qui était paru chez L'Harmattan. I'm not afraid to die. Brenda Fassie, c'est cette chanteuse que vous entendez derrière nous, qui est une chanteuse sud-africaine, l'une des grandes voix de l'affranchissement des Noirs durant l'apartheid. Pour clôturer cette émission, merci beaucoup Didier Combo d'être venu avec nous, venu dans nos studios ce matin. Didier Combo, donc un spécialiste des États-Unis et auteur de ce livre que je rappelle, dont je rappelle le titre, Des Américains et des armes à feu, sous-titré Démocratie et violence aux États-Unis, paru chez Belin. Merci d'avoir ouvert cette semaine dans Culture Monde autour des armes. Et merci également à toute l'équipe de Culture Monde, Lucille Como, Pauline Blisten, Antoine Dulster, à la technique ce matin, c'est Isabelle Berbala et Jean-Christophe Francis à la réalisation.